Eh bien, on arrive heureusement à la fin, possiblement, on le souhaite, de cette fameuse pandémie de COVID-19. Et évidemment, au cours de cette pandémie, on s'est rendu compte que pour bien des personnes qui ont une déficience visuelle, le port du masque était une problématique. Alors, entre autres, nous, au niveau du RAC et évidemment du regroupement ici, on a pensé qu'il serait peut-être intéressant de faire une étude pour comprendre pourquoi bien des personnes qui ont une déficience visuelle rencontraient un obstacle lors du port du masque. Alors, il y a une étude vraiment scientifique qui s'est faite. Et pour nous en parler, j'ai en ligne celle qui a réalisé cette étude, Mme Chantal Crédit, qui est spécialiste en orientation et mobilité. Bonjour, Mme Crédit.
Bonjour.
Donc, Madame Crédit, il y a eu, bon, dans le fond, pourquoi on a décidé vraiment de faire une étude sur le port du masque? J'ai élaboré un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce qui fait qu'on a vraiment démarré cette recherche-là?
Donc, depuis le début de la COVID-19, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été mises en place, comme le port du masque, la distanciation sociale, etc. Puis, dans la littérature, on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui travaillaient sur l'effet du port du masque sur la population malentendante, ce qui a mené à créer des masques transparents qui a résolu une grosse partie des problèmes que cette communauté rencontrait. Par contre, malgré le fait que beaucoup de personnes dans la communauté malvoyante aient reporté sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes des problèmes qu'ils ont eu également à cause du masque, il n'y avait pas d'études qui essayaient d'explorer le problème que cette communauté rencontrait dû au port du masque. Donc, c'est un peu pourquoi on a décidé de faire cette étude.
Dans le fond, Madame Grédy, combien de personnes ont rencontré de difficultés au niveau du port du masque lors de leur déplacement? Et aussi peut-être nous parler de la méthodologie. Peut-être commencer par la méthodologie et par ça, on va y aller avec le nombre de personnes.
Parfait. Donc, on a créé un questionnaire en ligne qui était composé de 35 à 58 questions à choix multiples et à développement. Le questionnaire était totalement anonyme, donc les personnes qui répondaient ne pouvaient pas être identifiées. Puis les participants pouvaient également demander de l'aide par assistance téléphonique, donc au cas où ils n'arrivaient pas à accéder à la plateforme. Puis, on a eu au total 135 participants à notre étude.
OK. Et il serait peut-être intéressant de connaître, c'est quoi les difficultés que les personnes ont rencontrées lorsqu'ils portaient le masque dans leur déplacement?
Donc, on avait plusieurs problèmes qui ont été reportés, dont la diminution de la fréquence des déplacements des personnes due aux problèmes qu'ils rencontrent. Donc, les personnes se déplacer moins à l'extérieur. Leur niveau de confiance lors de leur déplacement diminuait aussi beaucoup. Puis, les problèmes majeurs qui ont été reportés étaient la localisation des personnes autour d'eux, la localisation des repères autour d'eux et la communication avec les autres.
Et on lit aussi, on constate dans l'étude que c'est peut-être aussi par rapport à la faible, donc comment le masque est fabriqué. Je pense que le tissu a quand même une certaine importance dans la problématique.
Oui, effectivement. Donc, la majorité de nos participants utilisaient des masques ou bien chirurgicaux ou bien en tissu. Mais dans nos questions ouvertes, beaucoup de personnes ont mentionné que les masques en tissu, avec les masques en tissu, ils avaient plus de problèmes qu'avec les masques chirurgicaux. C'est pas assez pour donner une valeur statistiquement juste. Donc, on peut pas dire que c'est les masques chirurgicaux sont beaucoup mieux statistiquement, mais beaucoup de personnes ont reporté que le tissu, ils avaient plus de misère avec les masques en tissu.
Parce que le tissu, là, en fait, les tissus du couvre-visage sont plus épais, donc c'est probablement relié à
Exactement.
ça. OK.
Exactement. Il y a des sources en ligne aussi qui ont des débats sur le sujet qu'on a trouvé. Puis, beaucoup ont mentionné que dépendamment du tissu utilisé, des fois, il y a des tissus qui absorbent des sons, ce qui les rend plus atténués. Donc, ça affecte l'analyse des sons autour d'eux.
Et évidemment, on le souhaite pas, mais il risque peut-être d'arriver d'autres pandémies. Je présume qu'il y a des recommandations.
Effectivement.
Et quelles sont-elles?
Donc, Donc, nos recommandations sont très basiques pour l'instant. On espère pouvoir faire une étude par la suite qui pourra nous donner des recommandations plus concrètes. Mais pour l'instant, ce qu'on a pu mettre comme recommandation, c'est augmenter l'accessibilité des services en ligne et à distance, parce qu'une des stratégies que les personnes ont reporté utiliser pour remédier aux problèmes qu'ils rencontrent était d'utiliser les services de livraison en ligne. Sauf que la majorité des sites n'étaient pas accessibles. Donc, ça serait bien d'examiner les sites web pour s'assurer qu'ils sont conformes à la législation provinciale et fédérale sur l'accessibilité et aux normes internationales d'accessibilité du web.
Évidemment, là, c'est dans l'optique, évidemment, de limiter les déplacements.
Exactement.
OK.
Cette stratégie-là en particulier. Sinon, faire la formation des membres de la communauté voyante et des prestataires de services. Donc, c'est sûr qu'une des gros, un des plus gros problèmes qui est revenu aussi dans les questions ouvertes, c'était que les personnes sortaient moins parce qu'ils n'arrivaient pas à garder leurs 2 mètres de distance, ce qui les inquiétait encore plus lors de leur déplacement. Donc, peut-être éduquer le public et demander aux gens de faire plus attention à la distanciation sociale lorsqu'il y a des personnes de la communauté malvoyante autour d'eux, vu que eux, ils sont pas capables de garder leurs 2 mètres de distance, surtout que les chiens guides aussi ne sont pas trained pour garder le 2 mètres aussi. Sinon, il y aurait exploré les mesures permettant de fournir des services de soutien aux utilisateurs de chiens guides. Donc, beaucoup d'écoles de chiens guides ont dû arrêter leur service durant la pandémie. Donc, trouver un moyen de pouvoir garder les services même si une autre pandémie a lieu, puis on devrait le faire à distance ou quoi que ce soit. Donc, trouver des moyens de garder ces services toujours fonctionnel. Accroître les mesures visant à améliorer l'accessibilité physique, donc dans les magasins, dans les différents commerces. C'est sûr que pour des voyants, c'était plus simple vu qu'il y avait des flèches à terre qu'on devait suivre, mais peut-être faire la rendre plus accessible pour les personnes malvoyantes, une façon plus claire de leur dire que cette rangée-là, faut partir à droite ou cette rangée-là, faut aller à gauche, etc. Et augmenter le financement et les résultats de la recherche sur les services de télé-réadaptation. Donc, on a remarqué qu'il y avait un très bas pourcentage de nos participants qui ont demandé de l'aide aux centres de réadaptation pour régler les problèmes qu'ils rencontrent. Puis, cela a été majoritairement dû au fait que les services en réadaptation, surtout en orientation et mobilité, sont très durs à donner par télé-réadaptation, donc à distance. Donc, peut-être trouver des moyens ou des stratégies de pouvoir donner au moins une partie des services dans ce domaine-là. Et sur la dernière, mais la plus importante, c'est inclure les personnes atteintes d'une déficience visuelle en tant que partenaire. Donc, c'est bien de trouver des stratégies, mais quand on inclut des personnes qui rencontrent ces problèmes-là le jour au jour, ça nous donne une meilleure idée de comment les aider le mieux possible.
Terminant, Madame Crédit, peut-être nous nommer les différents partenaires qui ont participé à la recherche.
Donc, oui, on avait le RAAQ, donc RAAQ, Regroupement des aveugles et handicapés du Québec. On avait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui avait financé notre recherche. L'Université de Montréal, vu que c'est dans le cadre de ma maîtrise à l'Université de Montréal qu'on a fait cette étude. L'INLB, donc Institut Nazareth-Élie-Braille, et le CRIR, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain.
Ben, Madame Crédit, on vous félicite d'avoir fait ce beau travail et en espérant que, puis encore une fois, je le répète, on ne le souhaite pas, mais si jamais il y a une autre pandémie, ben on sera peut-être plus armé davantage. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Merci, bonne journée.